بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شفاق الإسلام نو رميسي الله عز وجل qui nous donne la possibilité donc ce soir de nous réunir, de reprendre nos durous, nos programmes de Riyad al-Salihin, jardin des vertus. Et dans ce jardin des vertus, subhanallah, notre prophète alayhi salat wa salam nous rappelle qu'Allah azza wa jal a créé des malaïkas, des anges qui recherchent ce genre d'assemblée où les croyants, les croyantes se réunissent uniquement pour parler de la religion d'Allah azza wa jal, pour étudier, pour connaître Allah Rabbul Izzah, ses préceptes, ses ordres, ses interdits, pour mieux se rapprocher de lui. Donc lorsque les anges trouvent ce genre d'assemblée, où on parle de la religion d'Allah Azza wa Jal, les anges rapportent à Allah Rabbul Izzah qu'est-ce qu'ils ont vu et qui ils ont vu. Et Allah Azza wa Jal sait mieux. Allah connaît qui s'est réuni pour sa cause et qui a prononcé ou écouté des paroles vertueuses. Et donc à l'issue de l'assemblée, il y a la promesse que l'intégralité des péchés de cette assemblée est pardonnée par Allah Azza wa Jal. Et dans une version d'Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, il est même rajouté que les péchés de ces personnes ont été transformés en bonnes actions. Et bien sûr, les savants disent que tout ce qui concerne pardon des péchés, ça concerne les petits péchés, les péchés du quotidien. Maintenant, pour les gunas kabira, les péchés al-kaba'ir, les péchés majeurs, bien sûr, cela nécessite un tawbatun nasuha, un repentir sincère, comme l'a déjà expliqué maintes et maintes fois. Mais c'est déjà, on pourrait dire, un bon début. C'est déjà un bon début que de se voir pardonner les péchés du quotidien, car Allah seul sait le nombre de péchés que nous faisons du matin au soir, consciemment ou inconsciemment, occasionnellement ou alors de façon répétitive. Et heureusement qu'Allah Azza wa Jal n'est pas que Shadid al-Iqab, mais Allah Azza wa Jal est aussi Arham al-Rahimin. Allah Azza wa Jal est clément, miséricordieux, comme on avait vu dans le tafsir d'Al-Fatiha, Ar-Rahman Ar-Rahim. Parce que si Allah Azza wa Jal était que Shadid al-Iqab, celui qui châtie, et que son châtiment c'est Azabun Alim, comme le dit le verset Nabi Ibadi Anni Anal Ghafur Ar-Rahim Wa Anna Azabi Huwa Al-Azabul Alim. La dernière partie du verset c'est d'informer les serviteurs que son châtiment est Alim, douloureux. Mais Alhamdulillah, au début du verset, Allah Azza wa Jal annonce qu'il est le pardonneur, le très clément, le miséricordieux, Ghafur Rahim. Autrement, si pour chaque péché qu'on accomplissait, Allah Azza wa Jal nous punissait, 1. Ou nous éloignait de sa rahma, 2. Ou ne nous donnait plus tawfiq, ne nous donnait plus tawfiq de faire de bonnes œuvres, 3. Ou nous guiderait, nous amènerait vers les péchés, 4. Si Allah Azza wa Jal, ou alors nous terrasser, envoyer son châtiment directement, ben il n'y aurait plus personne de ce dunya. Il y aurait un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y aurait à une époque les quatre califes, mais même les sahaba qui, durant leur vie, ont fait des erreurs, comme n'importe quel être humain, ben Allah Azza wa Jal les aurait châtiés. Comme le dit le verset, quand les sahaba me rappelaient, si je me trompe de le verset, Ramadan approche, « Walau yu'akhidu Allahu an-nasa bima kasabu » Ma taraka ala dhahriha min dabba. En ce sens, si Allah Azza wa Jal devait sévir, si Allah Azza wa Jal sévissait chaque croyant pour les erreurs qu'ils ont commis, ma taraka ala dhahriha min dabba. En ce sens, il n'y aurait plus personne de ce dunya. Il n'y aurait plus une créature vivante de ce dunya. Mais Allah Azza wa Jal est clément et miséricordieux. Et Allah Rabbul Izzah donne l'occasion aux serviteurs d'obtenir sa clémence, sa miséricorde, son pardon. Une des plus belles façons, c'est une des façons les plus simples qu'on a tous fait tout à l'heure sans s'en rendre compte. C'est quoi? Tahara, les ablutions, al-wudu. Quand le Prophète dit que quand le croyant fait ses wudu, subhanallah, ses péchés tombent à l'accomplissement du wudu, du tahara. En accomplissant la salat également, c'est des actions qui nous permettent, mashallah, d'effacer nos péchés. Et là, le fait d'assister à un majlis, on parle du dîn d'Allah, comme on a expliqué en introduction, à l'issue de cette assemblée, que chacun prenne conscience, que chacun réalise que à l'issue de cette assemblée, mes péchés que j'ai pu faire aujourd'hui, hier, avant-hier, ont été pardonnés par Allah. Est-ce que ce n'est pas là le plus beau cadeau pour démarrer une semaine, pour clôturer une journée? Si on se disait, si par exemple notre cher Idriss Moussa, qui est éducation nationale, mashallah, fonctionnaire, nous dit qu'à l'issue du majlis, il donne 50 euros à chaque personne qui sort. Est-ce que yaqin ne rentre pas dans le cœur? Non, il ne va pas le faire. Mais est-ce que la certitude n'entre pas dans les cœurs? Oui, si je sais qu'en sortant, bah, Idriss me donne, chaque personne va avoir 50 euros, on a rahba, on a cette motivation. Et on est content, on attend, et à condition d'être attentif. Là, tout le monde sera attentif, va prendre des notes, mashallah. Et personne ne va partir au bout de 5 minutes, 10 minutes. Parce que il y a yaqin, une conviction sur ce que je vais obtenir. Et donc, on va faire la queue. On va, quitte à le suivre chez lui, et obtenir ce qu'on a besoin, ce qu'il nous a promis. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal promet que les péchés sont pardonnés à la fin de l'assemblée, mes chers frères, ça doit être comme un Eid, comme une fête, comme un cadeau qu'Allah nous donne, car c'est un cadeau qu'Allah nous donne. Et ça, c'est une des fawa'id, un des avantages qu'il y a dans les majalis de dhikr, dans les assemblées où on parle du din d'Allah Azza wa Jal. Le fait d'être assis là, ce soir, Riyad, Muhammad, Abdullah, Ishaq, c'est tawfiq min Allah. C'est qu'Allah nous a choisis. On a fait salat en congrégation, Allah nous a choisis. Il y en a d'autres qui font la prière chez eux ce soir, parce qu'ils sont en train de regarder, je ne sais pas, The Voice, ou en train de regarder Bones, ou en train de regarder Gando, je ne sais pas, d'autres séries, ça aussi existe ça. Et il y en a d'autres qui, Wallah Moustan, ne prieront pas ce soir. Ne prieront pas ce soir. Et certains vont peut-être mourir ce soir, sans s'être prosternés une dernière fois, devant Allah Rabbul Izzah. Ça c'est la pièce des choses, Nasrallah al-Afiya. Alors que nous on est là. On est là. C'est pas nous les là parce que nous les forts, hein? Non. Nous les là, on est là parce qu'Allah a bien voulu de nous. On est là parce qu'Allah a bien voulu de nous dans sa maison. Bayt min buyutillah, une maison parmi les maisons d'Allah Azza wa Jal. Et Allah nous a accepté en plus de prier, de faire la salat en congrégation avec les récompenses, les vertus de 25 à 27 fois, hadith connu. Et Allah Azza wa Jal en plus nous a favorisé sur ceux qui sont rentrés chez eux. Il y en a qui sont rentrés, c'est pas un péché. C'est juste que Allah a choisi des gens pour faire une action en plus, pour obtenir d'autres récompenses que ces gens-là n'ont pas eues. Et nous sommes ces élus. Nous sommes ces élus, parfois c'est péjoratif, mais nous sommes ces personnes qui ont été élues par Allah. D'accord? Et il faut être conscient que là où on est, là, c'est la meilleure des assemblées du monde. Tout comme la majlis qu'il y a ce soir à la masjid de Saint-Denis, à, je ne sais pas, dans toutes les villes, bref, dans toutes les mosquées du monde. Quand des gens s'assoient pour parler du dîn d'Allah, ce sont là les meilleurs des assemblées. Il y a plus de valeur que des gens qui se rassemblent au Parlement, au Sénat, la cour d'un roi ou d'un prince, voilà, cheikh, qui parle du dunya. Même si il y a des millions, des milliards d'euros, de dollars, de je ne sais pas quoi, qui sont en jeu. Et qu'en une assemblée, une personne peut obtenir 5 000 euros, 6 000 euros. Il y en a qui, mashallah, s'en mettent plein les poches. Nous, notre assemblée, on n'obtiendra rien de palpable. Mais en termes de spiritualité, Allahu Akbar, en termes d'apport spirituel déjà, qu'on ait compris ou n'ait pas compris ce que la personne explique, ou qu'on s'est un petit peu endormi, roupillé comme certains, je sais qui au bout de 10 minutes vont s'endormir, même ces gens qui vont s'endormir, le fait d'être là, ils profitent des vertus. Et si en plus, on a écouté une parole qui a fait tilt, qui a touché les cœurs, qui nous a permis de démarrer une bonne œuvre, ou qui nous a permis de prendre une résolution pour s'éloigner des péchés, ça c'est un ni'm de la part d'Allah. Bien que ce soir, on aura pu se rapprocher d'Allah. Et y a-t-il plus belle chose que de se rapprocher d'Allah à l'issue d'une journée? C'est une journée où on se rapproche d'Allah, c'est une journée où on se rapproche du Jannah, du paradis. Et c'est une journée où on s'éloigne de l'enfer. N'est-ce pas là le but pour lequel on a été créé? Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Protégez-vous, vos proches du feu. Combien de fois on a cité ce verset? Combien de fois on a cité ce verset? Cette réalité doit entrer dans les cœurs. Parlez avec notre jeune Qari qui nous a honoré par sa salat al-Isha. Il disait qu'Inch'Allah, on fait un dua qu'Allah lui accorde un enfant cette année. Dites Amin. Mais quand vous avez un enfant qui naît, vous le voyez grandir, qu'est-ce qui se vous passe par l'esprit? La première chose, c'est je vais donner de l'amour à cet enfant. je vais être un papa exemplaire. Pour la maman, je vais être une maman exemplaire. Nous allons être de bons parents qui vont donner de l'amour. Il y aura de la présence, il y aura du cœur, il y aura l'éducation, il y aura l'encadrement aussi, il y aura des limites aussi. Tout ça, c'est les objectifs d'un papa, d'une maman, et chaque parent le fait avec fierté et responsabilité. Et c'est un des doigts qui revient le plus de la bouche d'un papa, d'une maman. Il y a des fois où les parents ils demandent le doigt pour leurs enfants avant le doigt pour eux-mêmes. Où Allah protège mon fils, ma fille, garde-le sur le droit chemin, protège-le des malheurs, des calamités, des sources de turpitude, des péchés, des égarements, etc., etc. Un bon papa, une bonne maman demande doigt pour ses enfants avant de demander pour lui-même. Parce que l'amour pour son fils, c'est pour sa fille, c'est plus fort encore. Tout ça, c'est bien. Mais avant, avec tout ça, pas avant, mais avec tout ça, n'oublions jamais que l'objectif premier d'un mari, zawj, et d'un père de famille, un papa ou une maman, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont sous sa responsabilité là soient protégés du feu de l'enfer. Quand le prophète Ali salat wa salam dit kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih, vous êtes tous. Combien de fois on a cité ce hadith? Combien de fois? Allahu Akbar. Parce que c'est ça, si on se limite à ça là, c'est largement suffisant. Toute la vie on pourrait répéter la même chose parce que c'est ça le plus important. Ça c'est le plus important. Que chaque mari veille à ce que sa femme soit protégée du Jahannam. Que chaque papa veille à ce que ses enfants soient protégés du feu de l'enfer. De quelle façon? En leur achetant une combinaison anti-Jahannam? En leur donnant un extincteur de leur qabar? Non. De quelle façon? En faisant en sorte qu'ils respectent les ordres d'Allah et qu'ils restent éloignés des péchés, de ce qui provoque la colère et le mécontentement d'Allah Azza wa Jal. Basse. Amplement suffisant. On a intégré ça, on en a fait l'objectif de notre vie, on l'a mis en pratique, khalas, vous avez atteint l'objectif pour lequel vous avez été créé. Parce qu'en protégeant sa famille du feu de l'enfer, on concrétise déjà « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِيْنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Oui ou non? Qu'on a été créé pour l'adoration d'Allah. C'est-à-dire que moi, parce que dans le verset, il y a « أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ » Protège-toi, protégez-vous. C'est-à-dire d'abord sauve ta peau. C'est-à-dire tu commences l'effort par toi-même. Wa ahlikum wa. Le wa, ça veut dire et ensuite votre famille contre le feu de l'enfer. C'est-à-dire que d'abord le papa, le croyant va faire l'effort sur lui. Il va mettre en pratique ce qu'il sait qui est obligatoire et s'éloigner de ce qui est haram. Et il va faire en sorte que ceux qui sont sous sa responsabilité fassent de même et il va les suivre pour qu'ils restent sur le droit chemin. Donc ça c'est le message le plus important. Donc, et tout ça ne pourra avoir lieu tant qu'on n'arrive pas à faire la relation entre la vie de ce dunya et l'au-delà. Mes chers frères, si quelqu'un n'a pas compris an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, qui n'a pas compris wal yawmil akhiri, il ne comprendra rien de ce dunya. On ne comprendra pas ce dunya, on ne comprendra jamais la vie de ce monde tant qu'on ne comprendra pas les réalités de l'au-delà. Et on avait beaucoup insisté là-dessus la dernière fois. On s'était focalisé sur un seul hadith. Qui me rappelle ce hadith? Ça remonte à 2 semaines, certes. Mais si je demande à un jeune, il y a 2 semaines, c'était quoi le résultat de Marseille, au hasard, Marseille-Lyon? Bien sûr, Marseille gagne, alhamdulillah. C'était quoi le résultat? Il serait capable de dire, il a gagné 2-1, but de un tel, et tout et tout. 2 semaines. Maintenant, si je demande quel hadith nous a mobilisé toute une soirée la dernière fois, il y a 2 semaines. Regarde, mashallah, qui publie les dîners que sa belle-mère lui prépare. Mais est-ce que, Ahmed, t'es absent? Mashallah. On avait parlé de la situation des gens, umuman al-insan, croyants, non-croyants, des êtres humains le jour de la résurrection, hufatan, uratan, ghurla. Sans chaussures, sans vêtements, les mains vides. Et on avait dit que si on réalise, on médite quelques instants sur notre situation dans l'au-delà, on comprend quelles sont les priorités de l'au-delà et qu'est-ce qui est considéré comme futile. Et comment je dois orienter ma vie. Dans l'au-delà, pas de vêtements. Rien dans les poches, rien dans les mains. Ça veut dire que là-haut, on n'a besoin de rien de matériel. La seule chose qui est avec nous, c'est وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. maïkoutkou, ou te livre d'action là, il colle, c'est avec toi. Dites-moi, ce verset, on n'a pas déjà cité au moins 6 fois ou 7 fois? Oui. Parce que ça, si on le retient, khalas, tawakkal ala Allah, tu as tout compris du dunya et du akhira. Donc la seule chose qu'il y a, vous êtes ressuscité, subhanallah, même pas un pagne, même pas un sous-vêtement, rien du tout. Il y a ton corps et il n'y a rien d'extérieur. Même pas comme quand on t'enterre. Quand on t'enterre, il y a un mashallah, il y a un kafan. D'accord? Même ça, ça ne t'accompagne pas le joie du qiyam, la joie de la résurrection. La seule chose extérieure à ton corps et à ton âme, c'est quoi? Iman et bonnes œuvres. Et c'est tout. Et mauvaises œuvres aussi. On aurait dû dire la foi et les actions. Mais je veux détailler la foi, les bonnes actions et les mauvaises actions. Donc, si je réalise que là-haut, il n'y aura que ça, et il n'y a que ça qui va déterminer mon avenir, mon futur quoi? Le futur simple? Futur antérieur? Futur plus que parfait? Le futur? Non! Éducation nationale, ça vous n'avez pas appris éducation nationale. Ça c'est l'éducation spirituelle. Il y a une conjugaison qui ne se trouve pas dans le Becherel de conjugaison. C'est le futur éternel. Vous avez appris ça? Vous enseignez aux enfants le futur éternel. Si l'éducation nationale mettait ça en œuvre plutôt que d'autres choses, ça aurait été pas mal. Enseigner aux enfants le futur éternel. C'est-à-dire le futur al-khuloud. Ajib, ça, al-khuloud. Soit khuloud fil janna, soit khuloud fil na. Donc, si je réalise que c'est ma foi et mes œuvres, mes actions qui vont déterminer de mon tracé, de mon chemin de l'au-delà, et rien d'autre qui va influencer. Autrement, ces autres facteurs-là serait avec moi. Si par exemple, il était requis pour chaque croyant d'avoir une qualification de ce dunya, un diplôme d'ingénieur, un diplôme de juriste, un diplôme d'enseignant ou de pharmacien, plombier, ben on serait ressuscité avec notre diplôme, avec notre thèse, avec notre doctorat en main. Mais non. S'il était requis pour un croyant ou une croyante d'avoir une somme conséquente de ce dunya, de ce monde, au moment de quitter ce monde, ben on serait ressuscité avec notre American Express, ou avec notre carte gold, ou avec notre carte bleue, ou pour certains, la carte vitale, hein, s'il n'y a pas d'autre chose. Chacun son niveau. D'accord? Mais même ça, il n'y a pas. Même ça, il n'y a pas. S'il était demandé à une femme, à un homme, que parmi les objectifs de son passage de ce dunya, c'est d'avoir une jolie femme, bombastique, fantastique. D'accord? Ben, la femme aurait été à côté de lui comme un trophée, motif de fierté dans l'au-delà. Et vice-versa, s'il faisait partie des devoirs de la croyante d'avoir un prince charmant dans ce dunya avant de quitter ce monde, ce prince charmant serait à côté de lui. Mais on sait bien que les seuls princes charmants qui se trouvent dans ce dunya, c'est dans des pâtés de 4 ou de 6. La marque lue. Prince charmant, c'est le seul qui existe. Sinon, le reste, c'est des escrocs. Il n'y a que des escrocs, mis à part dans les paquets de prince charmant de lui. D'accord? Donc, tout ça, ça n'a aucune importance. Peut-être un peu d'importance de ce monde, mais c'est juste pour faire tourner nos têtes un peu. Innamal hayat dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghayth. Ghayth c'est quoi? Matar, la pluie. A'jaba al kuffara nabatuhu. Continue va Mikal. Thumma alors kamathali ghayth a'jaba al kuffara nabatuhu thumma yahiju en ce sens il sec. On n'a pas expliqué au début. Fatarahu busfarra, c'est-à-dire que dans le verset, on aurait dû prendre depuis le début. Allah Azza wa Jalla explique dunya, c'est quoi? C'est un jeu, c'est un concours, enfin en ce sens, hein, je n'ai pas de traduction exacte, c'est un concours de c'est de la concurrence pour avoir le plus d'argent, pour celui qui sera le plus beau, celui qui aura ça. C'est-à-dire futilité, c'est comme un jeu. D'accord? Quand vous jouez à Monopoly ou à la bonne paye, enfin les jeunes savent plus c'est quoi ça, ils jouent que Call of Duty. D'accord? Vous jouez à Monopoly et tout. Est-ce que c'est une finalité? Est-ce que quand tu as acheté la rue de la paix, je ne sais pas, Champs-Élysées, tu dis que je suis l'homme le plus heureux au monde? Sorte là, on n'a rien d'autre poche réalité. C'est l'aib, ou Allah, ou wazina, c'est juste parure. Ou là, j'ai acheté un petit hôtel à mettre là, ou les calculs, c'est un petit morceau de plastique, ou je ne sais pas, un petit morceau de ferraille. Ben, c'est exactement comme ça, dunya. Tu as l'impression que tout se joue maintenant et tout, mais en fait, ce n'est qu'un tour de plateau de jeu. Puis c'est fini. Et quand c'est fini, on retourne vers les réalités de la vie. Réalité, tu as besoin de faire des courses, tu as quelqu'un de malade de ta famille, tu as telle responsabilité. Et dans ce dunya, la réalité, quand tout est fini, c'est le retour auprès d'Allah. Donc, Allah Azza wa Jalla explique, un jour, on va amener la traduction de ce verset, parce que si quelqu'un a sur son portable, c'est encore mieux. La'ibun wa lahum wa zinatun wa tafakhurun baynakum. Tafakhur, c'est motif de fierté baynakum. Est-ce que c'est pas comme ça de le dunya? Moi, il tient un gros loto, plus gros que mon voisin. Moi, il a un plus grand case, il a un machin. C'est faire en sorte qu'on dépasse. Hein, il dépasse. Il faut vous montrer qu'il a plus que son beau-frère, qu'il a plus que le cousin, qu'il a mieux réussi, et ainsi de suite. « Watafakhurun baynakum, watakathurun fil amwali wal awlad. » Fait en sorte qu'il y a beaucoup. On veut qu'il y a beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur, beaucoup de ainsi. Les asbab de dunya. On veut qu'il y a beaucoup de choses. Et l'exemple dit, c'est comme quoi, c'est comme, c'est qu'il pleut et qu'il y a un petit peu de verdure, un petit peu de plantes qui poussent ou de fleurs, ce que vous voulez. Et les gens, ils regardent ça, ils sont admiratifs. Ouah, c'est beau, il y a un petit peu d'herbe qui a poussé et tout. Et quelques instants après, ben, il n'y a plus de pluie. Au bout de quelques temps, le climat redevient aride et ce qui était vert devient jaune, va s'assécher. Et va se désintégrer. Hein, les fleurs, ils vont faner, ou si c'est des herbes, etc., ils vont devenir jaunes et en paille, et puis c'est fini, ça part. Ce dunya, il est exactement comme ça. Il y a le moment d'apogée. Regardez la précision de la métaphore du Coran. Le moment d'apogée, c'est pas juste que ça ne vaut rien du début jusqu'à la fin. Non, il y a un moment où ça vous plaît. Il y a un moment où ça vous parle. Il y a un moment où vous êtes tenté. Tu vois le dunya, tu dis en forme, franchement. Il y avait un Lamborghini noir garé dans le centre-ville de Koussani il y a quelques jours. Mais la photo, tu regardes ça, tu te dis, elle est belle la vie. D'accord? Dunya, ce serait illogique, contraire à la fitra, à l'inéité, à la nature humaine, que de dire que l'homme n'est pas intéressé du tout par le dunya. Non, ce serait pas vrai. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, le Coran, « Tuhibbouna al-mala hubban jamma » que l'homme aime. L'homme est attaché au bien de ce monde. Donc, il y a un moment où on est attaché, on voit la beauté, on est attiré par la couleur, par tout ce qui nous entoure, etc. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on voit que tout ça, ça se fend, ça disparaît, ça va, comment on pourrait dire, al-fana, ça va complètement, subhanallah, ça va perdre de valeur, ça va dévaluer et il n'y a plus de trace. Soit c'est le dunya qui me quitte, soit c'est moi qui quitte le dunya. Il n'y a pas une troisième solution. Soit c'est la crise et ce que tu avais, ben, tu as de moins en moins jusqu'à ce que tu n'aies plus. Ou alors ce que tu avais n'a plus de valeur. J'ai, je sais pas, 150 000 euros dans mon compte en banque. Et à un moment donné, poc, crise économique, financière, l'euro ne vaut plus rien, et ainsi de suite. Et voilà, c'est fini. Les 150 000 euros, ça devient comme 150 000 francs malgaches. Avec tout le respect qu'on a pour nos frères de Madagascar. Problème, pas problème. La monnaie se dévalue. Il n'y a plus rien. Ou alors tu perds tes biens. Allah protège. Incendie ou vol ou je ne sais pas quoi. Soit le dunya te quitte, soit c'est toi qui quittes le dunya. C'est-à-dire, comment? La mort. C'est toi qui quittes le dunya. Et si tu quittes le dunya avec tout ce que tu as monté, tu crois que ça va te servir à quelque chose? Le prophète me dit que lorsque quelqu'un meurt, il y a trois choses qui le suivent. C'est bien, sa famille, c'est aman, ses actions. Et lorsque la personne est enterrée, les biens retournent, s'en vont. La famille s'en va et qu'est-ce qui reste? Tes a'mal. A-t-on déjà vu une épouse rester sur la tombe de son mari jusqu'à mourir sur la tombe? Jamais vu. Même dans Roméo et Juliette ou Juliette je t'aime non plus, il n'y avait pas. D'accord? A-t-on déjà vu quelqu'un se faire enterrer avec son bâtiment, ses voitures et tout? Oui, peut-être les pharaons. Mais regardez les occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Attention! Égalité, fraternité, droits de l'homme, ils ont pillé, ils ont volé tout. D'accord? Donc, même si l'or et l'argent étaient enterrés avec, ça n'a servi strictement à rien. Et qu'est-ce qui reste pour un samedi? Les actions, c'est la seule chose qui reste dans la tombe avec la personne. Donc, prise de conscience. si tous les discours nous permettent d'arriver à cette réalité, que subhanallah, là on a deux situations là. Situation de la tombe qu'on vient d'évoquer, la seule chose qui reste avec vous c'est vos a'mal, vos actions, et situation de l'au-delà, la seule chose qui est avec vous c'est vos a'mal. Même le kafan n'y est plus. Même le kafan n'y est plus. Ben, tu réalises que ben, de ce dunya je me casse. Depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, Anwar et Ahmad dort déjà. Je me casse pour obtenir ce diplôme, pour avoir plus d'argent et ainsi de suite. Et en finalité, dans le delà, qu'est-ce que j'emporte? Rien de tout ça. Et j'ai donné priorité à mon travail, à mes études, sur mes salats, sur, les devoirs, sur mes devoirs envers Allah. Et le jour de Qiyama, tout ce que j'ai donné priorité n'a aucun intérêt. Et c'est les devoirs, c'est mes obligations qui comptent envers Allah. Est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'on perd notre temps? Est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'on se trompe totalement d'objectif? Si dans la tombe, ton diplôme, ton argent et tes biens, tu ne les emmènes pas avec toi. Si dans l'au-delà, tes diplômes, ton argent, ton honneur, le nom de ta famille, Ali grand famille, la famille un tel, la famille Moussa et ainsi de suite, tu n'emmènes pas avec toi dans l'au-delà, est-ce qu'on ne réalise pas que tout compte fait, je me suis complètement trompé d'objectif et que le petit bougla, le petit bonhomme là-bas, là, tout le temps il est dans la masjid, il est pauvre, il ne sait même pas comment il appelle, il est maigre, il n'a rien, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas un chat, mais c'est quelqu'un qui, mashallah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. C'est un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Et le jour du qiyam, hein, lorsque les gens sont ressuscités, on passe les étapes, hein, après l'angoisse, la crainte et tout, on voit des gens qui sont invités sous l'ombre du trône d'Allah, Azza wa Jal, et on voit, mashallah, ce bakoko là, il est sous l'ombre du trône d'Allah. Mais quoi il a fait, lui? Ali Kili? Combien d'études il a fait? Il n'est même pas fundi, il n'est pas mufti, il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. Il avait le cœur avec Allah du matin au soir. La langue trempée d'adhikrullah. Dunya, c'était pas son... c'était pas ce qui l'intéressait. Il avait une famille, oui, il s'acquittait de son devoir, de ses devoirs envers sa famille, amener la subsistance halal, faire en sorte qu'il ne manque de rien, ce qui est nécessaire, toujours de façon licite, donner une éducation correcte, travailler pour ne pas être dépendant des gens, ne pas tendre la main, ce qui est contraire au principe du din, et c'était suffisant pour lui. Et le reste du temps, son cœur était avec Allah. Il faisait ses 5 prières. Ratez jamais une prière. Lundi, jeudi, il jeûnait. 13, 14, 15, il jeûnait. Le soir, c'était Qiyam ul-Layl tous les soirs. Qur'an tous les jours. Dhikrullah tous les jours. Le cœur avec Allah en permanence. Le regard baissé. Les oreilles contrôlées. Les mains contrôlées. La langue contrôlée. Vissée. Le cœur avec Allah connecté. Rien, pas un écart de conduite. Même si on ne le voyait pas comme le meilleur des qari, le meilleur des orateurs, le plus grand des alim, le plus généreux, mais il a une place que tout le monde va pleurer le jour de Qiyam. Tu le vois, tu pleures des larmes de sang, tu remettes à sa place, quitte à ce que tu donnes tes millions que tu avais de ce dunya. Vous voyez comment les réalités peuvent changer? C'est comme les petits jeux. Parfois, vous voyez, il y a des jeux avec des petits, comment on appelle ça, des paillettes, une boule de cristal avec de l'eau, paillettes, et vous retournez, et ça change complètement. C'est-à-dire que là, vous voyez, la situation est comme ça, vous changez, tout ce qui est en haut devient en bas. Là, on se dit que la dictature de cette société, c'est travailler plus, gagner plus, avoir plus d'argent, avoir une telle intégration, avoir comme ci, avoir telle chose, consommer, acheter, faites crédit, mais vous devez posséder, posséder pour exister. Je possède, donc je suis. Je possède, donc je suis. D'accord? Ça, c'est des dictatures du dunya. Mais celui qui sombre de cette dictature, le jour de Qiyama, la personne se rend compte qu'elle a tout perdu, qu'elle a khassira dunya wal akhirah, perdu qu'en réalité ce dunya, même le dunya n'a pas été heureux de ce dunya. Les plus grands millionnaires, les milliardaires sont-ils heureux? Dorment-ils tranquilles le soir? On donne toujours ces exemples. Regardez ces grands footballeurs, regardez ces chanteurs, vous voulez qu'on cite les noms? Regardez Diego Maradona, regardez, comment s'appelait cette chanteuse-là? Elle a son tête, là. Ah, hein? Non, Diams a son tête. Ya Ritaqillah. Diams, salut, Shahada. Hein? Beyoncé, mais là, c'est le coup de Beyoncé. Une autre, Britney Spears. Britney Spears. Rase la tête devant une caméra et tout. Ça veut dire quoi, ça? Coco, il bloque. Coco, il bloque. Comment Coco, il bloque? Tu as 15 millions de dollars dans ton compte en banque. Tu tu as pour une femme, hein, elle claque les doigts, elle a les plus beaux mannequins, les plus beaux hommes avec elle, et ainsi de suite. Amour, gloire et beauté. Ça, c'est shahada. Shurut shahada. Na'oudhu billah. Dans ce dunya. Amour, gloire et beauté, khalas. Tu es l'homme le plus, ou la femme le plus. Vous voyez ces gens, un homme comme ce footballeur qui avait l'argent à n'en plus compter, finit par se piquer, pourquoi? Quand tu es riche, célèbre, tu as tout, tu as des palaces, tu es accueilli comme un prince. Il y a même une religion de nos jours, vous savez, il y a une secte en Argentine où on fait le culte de Maradona. C'est une religion, on adore cet homme. Bref, tu as cette position de le cœur des hommes, tu te piques à la marijuana, à la je ne sais pas quoi, parce que tu n'as pas trouvé l'adha, te manque quelque chose, halawa. C'est la douceur de la foi, tu ne l'as pas. Et si tu n'as pas halawatul iman, la tranquillité, la sakina que t'apporte iman billahi wa bi rasulihi et ainsi de suite, tu ne trouveras jamais le contentement du cœur. C'est pour ça qu'on dit khasirat dunya wal akhirah. L'au-delà, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi il a tout perdu, mais ce dunya aussi, parce que même si tu as cumulé, ton cœur n'est pas content, n'est pas satisfait, la personne n'est jamais vraiment heureux, n'est jamais vraiment, vraiment épanoui. Donc mes chers frères, tout ça pour revenir à notre introduction, que assister à une assemblée où on parle d'Allah Azza wa Jal, où nos péchés sont effacés, on se rapproche d'Allah, où on se rapproche du Jannah, c'est le plus grand cadeau de la part d'Allah. Et réaliser le but pour lequel on a été créé, la responsabilité que nous avons envers femmes et enfants, ça c'est la plus noble des causes. Et pour que tout ça, ces réalités rentrent dans les cœurs, il y a nécessité de connaître Al-Akhirah. Et ça c'est le thème, hein. Il y a deux fois on essaie de démarrer, mais Allah Azza wa Jal nous donne tawfiq d'aller vers des choses plus général, mais qui sont nécessaires. Un rappel pour moi-même en premier et pour nous tous. Deux fois, on reste sur le même sujet, on tourne autour. C'est qu'Allah Azza wa Jal veut que peut-être cette réalité rentre dans nos cœurs. C'est qu'il y a encore un manquement, qu'on n'est pas encore convaincu, réalisé pourquoi on a été créé et quelle sera notre situation dans l'au-delà. C'est pour ça que dans wa mimma yadkhulu fil iman bil yawm al akhir, parmi les choses qui rentrent dans la croyance en l'au-delà, on verra toutes les étapes de l'au-delà, Inch'Allah, pas en détail, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est de continuer des riyadus salihin, mais avoir un aperçu des différentes étapes de l'au-delà. Et ce qu'on devait voir ce soir, c'était les hommes les plus heureux de l'au-delà. Passer en revue quelques étapes difficiles et voir, justement, comme on avait abordé furtivement tout à l'heure, les sept personnes qui seront sous l'ombre d'Allah, l'ombre du trône d'Allah. Les sept, je veux dire, catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, Azza wa Jal, et voir qu'est-ce qui caractérise ces gens-là. Ça, c'est un programme qu'on fait à Montreuil le mardi, en détail. C'est vraiment, mashallah, c'est quelque chose aussi qui renforce l'iman. Connaître en détail les qualités de ces sept catégories de personnes pour voir comment est-ce que je peux obtenir ces qualités et les mettre en pratique dans ma vie. Nous, on va juste passer en revue rapidement, en une quinzaine de minutes, la prochaine fois, inshallah, mais de voir un petit peu. Ben, ce qui est important, c'est de voir les gens qui réussissent dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir ? C'est-à-dire quand vous voyez par exemple quelqu'un qui passe un concours, allez, d'avocat, ou quelqu'un qui passe un concours de médecin ou d'architecte, allez voir ceux qui sont diplômés. Vous apprenez, faites des études, ensuite voyez ceux qui ont obtenu leur thèse, leur diplôme, ou ainsi de suite, et voyez qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi, quelles qualités ils avaient développées, qu'est-ce qui fait qu'ils ont été acceptés. Pareil, de l'au-delà, et ça c'est un exemple magnifique, quand Allah, si le prophète alayhi salatu wassalam nous avait juste décrit qu'il y aura sept catégories de personnes sous le nom du trône d'Allah, sans donner de détails. On aurait juste eu l'envie de faire partie de ces catégories, faire dire, oh Allah, choisis-moi pour être parmi ces gens. Mais le fait que le prophète alayhi salatu wassalam explique que c'est celui qui a fait ça, celui qui n'a pas fait ça, celui qui faisait tout le temps telle chose, celui dont le cœur était rempli de telle qualité, c'est-à-dire le prophète te donne la recette, te donne le tracé, le chemin pour avoir, c'est-à-dire c'est un chemin en pointillé, tu as sept chemins différents qui te mènent sous cette situation, sous l'ombre du trône d'Allah le jour de Qiyamah, c'est-à-dire la position la plus honorifique et la plus apaisante, la plus tranquille, synonyme de réussite dans l'au-delà. À toi de voir par quel chemin tu vas arriver sous l'ombre du trône d'Allah, Azza wa Jal. Donc ça, Inch'Allah, la prochaine fois, on va essayer de voir un petit peu afin de créer le talab, l'envie, la motivation de les cœurs pour de développer notre iman et de développer notre relation avec Allah par le biais d'une de ces sept actions ou alors plusieurs parmi ces sept actions. Parce que jour après jour, le discours du dunya nous motive pour rentrer un peu plus dans les réalités du dunya. pour développer un peu plus ces qualités de l'homme intégré qui travaille, qui gagne, qui réussit, qui avance. Et ces réalités entrent à plein fouet dans le cœur, consciemment ou inconsciemment. Mais là, on a besoin de voir d'autres objectifs, les vrais objectifs, et en voyant ceux qui ont réussi, ça nous permettra de réaliser quel travail, quel effort je dois faire pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal le jour de Qiyam. On verra ça la prochaine fois. Juste deux points en dehors du programme. Premièrement, bien sûr, bon, parce que si je ne le fais pas, on me fera la reproche pourquoi je n'ai pas fait. Un petit détail, hein, j'aime pas trop le dire, mais vous voyez dans la salle, le portable d'une personne a sonné 3 fois. Et la même personne, son portable a sonné Salat al-Dhahr, la même sonnerie. Je connais ça, la même sonnerie que mon belle-mère, donc je m'y connais. Bref, c'est une difficulté ça, c'est quelque chose de nuisible, c'est quelque chose de mauvais, on a déjà expliqué. Maintenant, certaines personnes, je vois, ils ont des emplois de ministre. Quelqu'un t'appelle 3 fois en 5 minutes, c'est que vraiment tu es un VIP. Alors on dirait à cette personne, soit c'est une femme qui veut que tu l'épouses, donc dès que la salat est terminée, va faire ta demande en mariage et on va t'accompagner pour faire le nikah, si c'est aussi urgent que ça, ou alors je ne sais pas c'est quoi. D'accord ? Quand on entre dans la masjid, le premier réflexe c'est d'éteindre le portable par respect pour l'ibada qu'on fait dans la salat, respect pour la lecture du imam qui est perturbé par de la musique, c'est de la musique, oui ou non ? C'est de la musique. D'accord ? Et par respect également pour les malaïka, barakallahu fik, les malaïka qui sont présents dans la masjid. D'accord ? Ça c'est un point. Mais bien sûr, moi je suis contre hein, ce genre d'attitude. Quand ça va finir, on se lève, on vocifère, ouais, éteins le portable, laisse le portable dans la case. On n'a pas honte. Ça c'est pas bien. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais humilié une personne en public. Même ce bédouin à l'arabi, alladhi bala fil masjid, qui a uriné dans la masjid, arabi. Arabi, c'est quoi ? C'est un bédouin. Et bédouin, c'était vraiment les pires. Les gens qui n'ont aucune manière, aucune politesse, étaient à la mosquée, ils ont envie de faire pipi. Il n'a pas qu'à son tête, à l'héros de toilette, mais il fait pipi d'un coin, à côté un poteau. Imagine quelqu'un fait ça de nos jours. Qu'est-ce que Youssouf fait Ali ? Youssouf, quand même, il lève le boug, il renvoie Ali de Saint-Cotide à Camélia. Tout de suite, il dit, bon, les malades, ou les fous, les machins, et tout, tape Ali, mettez-les dehors, pipi bat, tiens là. Alors que là, c'était Masjid Nabawi. Attention, la mosquée sainte de Madina, en présence du prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un fait ça, il se dit, bah, tu vois pas, il y a un fundi qui est là, il y a des gens pieux, il y a un invité, tout, t'as pas honte et tout. En présence des meilleurs des sahaba qui étaient également présents. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su qu'on doit ménager le cœur d'un croyant. On ne vexe pas une personne. Donc, ça m'a été le voir, lui a donné les conseils. La personne était tellement satisfaite, j'ai dit qu'Allah Azza wa Jal hein, te bénisse et me bénisse. Et puis, la suite des hadiths est long. Bref, donc, maintenant, une parole générale après une salat, c'est possible. Mais jamais humilier. Il ne faut jamais casser le cœur d'une personne. Jamais de jamais. Quelles que soient les circonstances. Maintenant, on peut voir la personne à l'extérieur, par la suite, un responsable dit. Très souvent, ça t'arrive, hein, ton portable sonne. S'il te plaît, mon frère, fais gaffe la prochaine fois, éteins ton portable. D'accord ? Ça, c'était un point nécessaire, un rappel, au cas où si la personne est à l'assemblée, que la personne nous écoute, Inch'Allah. D'accord ? La personne était là-bas, exactement au fond, à droite. D'accord ? Maintenant, comme on a dit, c'était un mariage et toi, Nika, je suis là, je peux officier le mariage dans un instant. Si la fille est tellement pressée, ça se comprend. Deuxièmement, petite anecdote pour ceux qui ont été un peu sur Internet hier, avant-hier, il y a 3 jours. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité il y a quelques jours ? Riyad, qu'est-ce qui a marqué l'actualité ? Hein ? Facebook ? Facebook, c'est une généralité. Est-ce qu'il y a un sujet ? Qu'est-ce ? L'essence ? La grève ? Non, sur le plan national. Ici, que ça se passe ici ? L'essence et tout. Bref. Qu'est-ce qui a fait bouger le cœur de 58 000 Français ? Comportement ? Qu'est-ce qui a fait bouger le cœur de 58 000 Français ? Non ? Mariage pour tous, on est cuit de toute façon, c'est pour tous. Comment ? J'entends pas. Non, non, non. Non, non. 58 000 Français. Oui. Ont été touchés, choqués par la vidéo complétée. Ah, il a trouvé. Allez. Alors, je connais quelqu'un avec sa date. Pas la vidéo d'un jeune, que ça le jeune a fait. Attrape le chat, la jette contre le mur. Vous l'avez pas vu? Entendu? Ben, allez, regarde la vidéo. Bah, j'ai pas regardé, hein, j'ai lu juste les gros titres. Apparemment, un jeune qui a torturé un chat. Il a pris un chat, je sais pas s'il l'a démembré ou quoi, il est jeté contre le mur, il se filmait et voilà, fièrement. Et le bouc, il met sur YouTube. Il demande à quelqu'un de le filmer et en plus, il fait en sorte que tout le monde puisse admirer sa cruauté. Parce qu'il n'y a pas de terme que cruauté pour ce genre d'acte atroce. Alors, moi j'appelais ça l'affaire du lancer de chat. Hein, si Maître Mogalia nous permet d'appeler ça de la sorte. Le lancer de chat. Quelle est la position de l'islam sur le lancer de chat? Autorisé ou pas autorisé? Bien sûr, c'est haram. Excusez-moi de poser la question. Vous voyez, quand même 58 000 Français ont été touchés, terrorisés par ça. Je ne sais pas dire que c'est Al-Qaïda, ou c'est un terroriste, ou c'est un extrémiste, un intégriste religieux. Mais il aurait pu. Hein. S'il y avait une bâtre, là, ça aurait été une nouvelle forme de terrorisme contre les chats. Donc, subhanallah, 58 000 Français. Ils ont fait une telle pression que le gars, il a été jugé aujourd'hui. C'était écrit dans 20minutes.fr hier. À Gyps, hein, parfois il y a des gens qui volent 150 000 euros. Pendant 3 mois, il n'est pas jugé. Le gars, là, prend un Mimi. Mais c'est quoi un Mimi? Il a pris un petit chat. Bon, je ne cautionne pas. Hein. Il a torturé un chat, comme il y en a qui font peut-être la même chose ailleurs. Et il paraît en comparution immédiate lundi. Yani, il a fait ça vendredi ou samedi. Lundi, il passe devant le juge. Mais c'est quand même, bon, moi je me dis que, mashallah, il y a encore du bien. Dans le cœur de beaucoup de gens, hein, de nos compatriotes, de nos concitoyens, ils ont cet amour pour la création divine, la création de Dieu, pour ceux qui reconnaissent qu'il y a un Dieu. Notre position à nous, est-ce que ça veut dire que vraiment c'est le peuple élu, c'est vraiment les valeurs les plus nobles de toutes les civilisations? Bien sûr, c'est une valeur noble. Maintenant, si on remonte un petit peu l'histoire, pas beaucoup, hein, remonter à 1500 années. Dans le désert d'Arabie, d'accord, où il n'y avait pas toutes ces constitutions, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tout ça, tout ce qu'on connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte l'histoire d'un homme qui avait trouvé un chien qui mourait de soif. Et l'homme fut pris de pitié, rahma, dans le cœur de cet homme. Il a pris sa bottine, il est descendu dans un puits et il a pris de l'eau dans sa bottine et il a donné de l'eau à ce chien. Et il a donc sauvé la vie de ce chien. Il a sauvé la vie d'un chien kelb. Quand, si un chien, il te lèche, il bave sur toi, tu peux prier avec? Non! C'est impur, il faut laver tes vêtements. Si un chien mange de ton assiette, d'accord? Est-ce que tu peux continuer à manger dedans? Comment il faut purifier? La vaisselle? Pec, citron, Ajax, Javel, laver 7 fois avec de l'eau et 1 fois avec la terre. Parce que la bave du chien, c'est impur, najis. Et scientifiquement prouvé, rempli de bactéries. D'accord? Chien, un animal qui n'est pas propre. D'accord? Le prophète alayhi salatu wasalam dit qu'un ange, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des portraits, des dessins, des peintures, représentations humaines, et un chien. Donc, vous voyez, le chien, c'est pas la créature la plus noble. D'accord? Mais malgré ça, pour celui qui a donné de l'eau à un chien, le prophète sallam dit qu'Allah azza wa jalla lui a accordé Jannah pour ça. Paradis pour ce qu'il a fait. Parce que ce chien est un être vivant. Pour ça, dit kulli kabidin ratbin ajr, ou comme a dit alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire dans chaque estomac humide, c'est-à-dire dans chaque être vivant, la métaphore est magnifique en arabe. Dans chaque personne qui a un estomac, c'est-à-dire qui vit, dans chaque être vivant, il y a ajr, il y a des hasanats, il y a des récompenses obtenues de la part d'Allah si on fait preuve de pitié envers cette créature d'Allah. Les grandes règles d'humanisme, de respect de la vie, nous ont été inculquées par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, le prophète donne l'histoire, donne l'exemple de cette femme qui a laissé un chat mourir de faim et de soif. Elle dit que ne l'a même pas, et l'a laissé attacher, et ne l'a même pas laissé, ne serait-ce s'enfuir pour trouver sa nourriture lui-même tout seul. Et le chat est mort de faim et de soif. Et le prophète dit que cette femme entrera dans le Jahannam, dans l'enfer, elle est punie pour ce qu'elle a fait avec cet animal. ce que ce jeune homme a fait, on va dire que c'est pire encore. Maintenant, nous réalisons premièrement que ce qui a animé le cœur de ces 58 000, me semble, Français, c'est quelque chose qui anime déjà nos cœurs depuis 1500 années. C'est une qualité qui doit être propre aux croyants, le respect de la vie de n'importe quelle personne. Et en priorité, le respect de l'être humain, que ce soit un croyant ou un non-croyant. Ça, ce sont, mes chers frères, des valeurs nobles à développer et qui permettent une intégration totale. Le croyant, ce n'est pas celui qui se replie sur lui, qui dit que je fréquente que les musulmans, celui qui n'est pas musulman, oui, je ne veux même pas le voir, même pas le parler et tout et tout. C'est à dire le hubbu fillah ou le bourdou fillah, d'accord ? Le prophète l'a mis en pratique. Mais le prophète alayhi salatu wa salam a fréquenté des yahouds, oui ou non ? Des tribus juives, les trois tribus yahouds, Qaynuqa, Quraida, Nadira, Madina, mais il avait un comportement exemplaire envers eux, tant qu'eux aussi ils avaient un comportement correct. Le prophète n'a-t-il pas reçu des coptes d'Égypte ? Non, pas d'Égypte, des coptes. Une tribu chrétienne qui est venue de Najran, côté de Palestine. Excellent akhlaq, il a laissé même dans la Masjid Nabawi. Le prophète alayhi salatu wassalam n'avait-il pas un comportement noble avec les polythéistes, les mouchriquins de Quraysh, adorateurs d'idoles? Il avait un comportement exemplaire, il ne les a jamais fait du tort, ni insulté, ni offensé. Ça, c'est akhlaq de le prophète alayhi salatu wassalam. Nous avons besoin de développer ça dans notre vie pour être le meilleur des croyants et le meilleur des citoyens. Un bon musulman sera un bon citoyen en France, en Angleterre, en Afrique, en Russie, dans les pays asiatiques, n'importe quel endroit au monde, parce qu'il développe les qualités du musulman. Ça, c'est vraiment quelque chose de base qu'on doit intégrer. Maintenant, il y a un autre petit point. Vous vous rendez compte qu'on n'aborde pas ça uniquement pour le côté positif. Il y a un truc qui me bloque un petit peu, c'est que ce jeune homme s'appelle comment ? Comment il s'appelle ce jeune homme ? Farid ? Oui, non ? Dites-moi si je me trompe. J'ai cru lire dans les commentaires qu'il s'appelle Farid. Alors, si je me suis trompé de nom, qu'Allah me pardonne. D'accord ? Mais j'ai cru lire qu'il s'appelle Farid. Et il y a quelques jours de cela, regardez un reportage, j'avais vu un morceau de reportage, on parlait du grand banditisme. Un des plus grands dealers de drogue en France qui est emprisonné. On montre le gars de sa cellule, il est capable de gérer des livraisons de drogue dans d'autres parties de la France. C'est-à-dire un cerveau camé, mais un cerveau. Et bien sûr, quand on parle de la personne, c'est avec un pseudo. Ils l'ont appelé Youssouf. Ah, excusez-moi Youssouf, hein. Ils l'ont appelé Youssouf. C'est-à-dire un pseudo, mais ça prouve bien que c'était un musulman. Ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Quand on voit que dans des choses aussi mauvaises, on a souvent des croyants, des musulmans qui sont à la tête. On se demande, est-ce que nous sommes de dignes héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du akhlaq de le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des fois où il ne faut pas se demander pourquoi les gens veulent bien taper sur nous. L'islamophobie, c'est une réalité. D'accord ? Mais il y a des fois où on se demande, est-ce que nous-mêmes, on ne le provoque pas par une attitude hostile, par un comportement incompatible, par un mauvais comportement de musulman qui est synonyme de mauvais comportement de citoyen. Parce que bon comportement de musulman est synonyme de bon comportement de citoyen. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On doit essayer qu'on voit que quelqu'un, si quelqu'un a fait quelque chose de mal dans sa vie et qui porte atteinte à l'image du dîn de l'islam, nous devons redoubler d'efforts pour donner la plus belle des images de notre dîn. Maintenant, on va clôturer avec toute la compassion qu'on a pour ce chat, d'accord ? Mais en même temps, on va dire qu'il ne faut pas non plus exagérer. C'est un animal, on respecte, mais quand on voit autant de mobilisations et des sites internet qui font la une de leur page, l'histoire de ce chat, je me dis que les petits enfants syriens, ils méritent plus la une de tous les journaux du monde. C'est là que je me dis qu'il y a une hypocrisie quand même. Il y a quelque chose d'incohérent. D'autant plus quand on se déclare les héritiers des droits de l'homme, siècle des Lumières, l'humanisme, c'est des courants, hein, d'accord ? Qui font un petit peu la fierté de la civilisation française, mais qu'on voit certes des gens aussi qui se pitoient sur le sort de l'animal, bien sûr on est content, mais qu'on voit l'opinion des citoyens, de nos concitoyens, par rapport à ce qui se passe en Syrie, par rapport à ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde, lorsqu'on voit également Centrafrique, des musulmans massacrés, d'accord, ou même si c'est des chrétiens qui sont massacrés, le peu de motivation, le peu de, subhanallah, de réaction humaine, et là je veux plutôt me focaliser sur les enfants, parce que les seuls qui ne méritent vraiment rien, les seuls qu'on doit, qui, subhanallah, sont totalement innocents, ils n'ont pas d'engagement politique, parce que parfois il y a des trucs politiques derrière, on ne connaît pas, sans juger, mais un enfant reste un enfant. Quand on voit un enfant syrien mourir de faim, un enfant syrien mourir de froid, un enfant syrien qui perd ses parents, un enfant syrien qui est frappé, torturé, et quand je parle de syrien, c'est dans d'autres régions du monde aussi, tout autour, et qu'il n'y a aucune réaction, on se demande où sont ces prix Nobel de la paix, où sont ces grands écrivains humanistes, où sont ces personnes qui osent donner parfois des leçons de insaniya du mal. Donc on dit, d'accord, ça nous touche cette histoire, mais il ne faut pas exagérer non plus. C'est comme quand on voit des gens qui font de l'écologie l'objectif principal de leur vie et qui laissent des populations mourir de faim, des populations exterminées, des génocides. On se dit que oui, la voiture électrique est importante, oui, il faut réfléchir au gaz de schiste, il faut penser à la pollution et ainsi de suite. Mais attention, là-bas tu as des gens qui meurent. De l'autre côté, on ne se voile pas la face, il y a des gens qui meurent. Donc essayons de revoir un petit peu les choses de manière plus claire et plus réaliste. Maintenant, est-ce que le problème, est-ce que ce qui fait que cette mort est insignifiante, est-ce que c'est le fait que c'est la mort d'un petit musulman? Si c'était un petit enfant d'un autre pays, d'une autre civilisation, si c'était un petit Italien qui mourait, un petit Allemand, un petit Norvégien, ne me dites pas que les pays du monde auraient déjà envoyé leur armée pour protéger ces enfants innocents. Mais peut-être le seul péché, c'est que ce sont des petits croyants. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. L'histoire se répète. L'histoire se répète consciemment ou inconsciemment. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Regardez, témoin de ce qui se passait. Vieillards tués, femmes tuées, assassinées, violées, tuées. Enfant violenté, assassiné. Shuhud, il regardait. Bougez pas. La seule chose, c'est qu'ils avaient iman en Allah. L'histoire d'Ashab al-Ukhdud, Allah musta'an, se répète. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal, Allah Rabbul Izza wa Al-Ka'ba, d'accorder le même degré d'Ashab al-Ukhdud à nos frères et sœurs musulmans qui sont persécutés, qui meurent jour après jour. Et qu'Allah nous pardonne pour nos manquements et que nos doigts les accompagnent. Ma tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.